Quand le dirigeant le plus imprévisible de la planète se retrouve face au dirigeant le plus secret au monde, Donald Trump affirme ce matin que son sommet historique avec Kim Jong-un a permis de faire beaucoup de progrès. Le président des États-Unis parle d'une rencontre fantastique avec le dirigeant nord-coréen à l'issue d'un déjeuner de travail à Singapour. Un document pourrait être signé, précision dans un instant.
Et puis à suivre également l'errance de 629 migrants secourus au large de la Libye, l'Espagne prête à accueillir leur navire rejeté par l'Italie et Malte. Si la météo le permet.
Theresa May va-t-elle réussir à maintenir l'unité de son parti conservateur ? Débat sur le Brexit au Parlement. À partir d'aujourd'hui, débat à haut risque pour la première ministre britannique qui doit tenter de réunir son camp conservateur et ses propres ministres. C'est l'acte 2 du chantier de la rénovation sociale qui vient de rentrer dans l'hémicycle avec les débats sur la réforme de la formation professionnelle. Comment simplifier et accélérer le retour à l'emploi ? Ce sera l'objet du billet économique de Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, Catherine, on reviendra sur la question des migrants et du droit international en compagnie de Thibaut Fleury-Graff, qui est professeur de droit international à l'Université de Rennes.
Here comes the President of the United States, and here are the two gentlemen, let's watch the moment.
Leur poignée de main a été captée par les photographes et les caméras du monde entier, retransmises en direct à la télévision, comme sur CNN.
And just like that, history has been made.
Une scène historique, cette rencontre ce matin entre Donald Trump et Kim Jong-un. Un sommet inédit ce matin à Singapour entre un président des États-Unis et un dirigeant nord-coréen. Donald Trump évoque une rencontre fantastique. Il assure avoir établi une bonne relation avec Kim Jong-un, alors que les deux dirigeants ont multiplié les amabilités après des mois de tensions entre Washington et Pyongyang, essais nucléaires et tirs balistiques, surenchères verbales, avant une accalmie donc diplomatique. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Catherine.
Vous suivez cette rencontre à Singapour pour France Culture et à l'instant donc, Donald Trump annonce qu'il va signer un document avec le dirigeant nord-coréen. Est-ce que l'on en sait un peu plus, Grégory, sur ce texte ?
Alors non, pour l'instant, la cérémonie de signature de ce document n'a pas encore eu lieu, donc on ne connaît pas la nature des engagements qui ont pu être pris ce matin. Il faut dire qu'il y a quelques minutes, les deux dirigeants ont achevé leur déjeuner de travail et Donald Trump a donc évoqué une formidable réunion, beaucoup de progrès, dit le président américain, qui évoque donc la signature de ce texte, mais sans donner plus de précision pour l'instant. On sait, Catherine, que sur la table de la rencontre, il y avait évidemment ce matin le démantèlement de l'arsenal nucléaire nord-coréen. On va résoudre ce problème, a promis Trump. On va y travailler. Et Kim Jong-un lui a répondu « Nous avons de nombreux défis devant nous, mais nous allons travailler ensemble car ceci est bon pour la paix. » Au moment où je vous parle, donc le sommet est en train de se terminer. Il dure depuis un peu plus de 3h30. Pour l'instant, pas de détails sur le contenu des conversations. On en saura sans doute un peu plus d'ici 2 ou 3 heures avec une conférence de presse annoncée ici à Singapour pour le président américain. Il restera tout de même, Catherine, cette image inédite, historique, la première réunion d'un dirigeant nord-coréen et d'un président des États-Unis, sans doute un premier pas vers la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays.
Grégory Phillips en direct ce matin de Singapour pour suivre ce sommet historique donc entre Donald Trump et Kim Jong-un pour France Culture. Après 7 décennies de confrontation entre Washington et Pyongyang depuis la guerre froide, une longue histoire faite de méfiance, de tensions et d'accords ratés, c'est le choix de la rédaction à suivre dans le journal de 7h30. Vont-ils pouvoir trouver un port d'accueil en Espagne ? Les 629 migrants secourus ce week-end par l'ONG française SOS Méditerranée, avec une centaine d'enfants et 7 femmes enceintes à leur bord, des migrants qui avaient été refusés en Italie et à Malte, sont désormais les bienvenus à Valence. Il en va du devoir de l'Espagne en matière de crise humanitaire, a expliqué hier le socialiste Pedro Sanchez, 10 jours après son arrivée au pouvoir à Madrid. Mais les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour ce nouveau voyage de 4 jours peut-être, indique SOS Méditerranée, dont le navire l'Aquarius surchargé ne peut pas affronter des vagues de 2 mètres de haut en ce moment. L'Aquarius partira dès que possible pour Valence, assuré de son côté le gouvernement populiste italien. À l'issue d'une réunion de crise hier soir, sauver des vies est un devoir. Transformer l'Italie en un énorme camp de réfugiés, non, a tweeté le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini avec le mot dièse « Nous fermons des portes ». Nouvelle preuve, s'il en fallait, que le rapport de force peut l'emporter sur la recherche de consensus, Marie-Pierre Véro.
Cela semble une tendance de plus en plus partagée dans les affaires internationales. Le fait accompli au mépris du droit international. Derniers épisodes plutôt trumpiens avec le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, le reniement d'accords multilatéraux, qu'ils soient commerciaux ou sur le nucléaire iranien, les droits des migrants et demandeurs d'asile constituent un terrain de plus en plus fertile. Abandonnés à leur sort, repoussés toujours plus loin, et pas seulement par l'Italie. Matteo Salvini avait beau jeu ce lundi de crier « Vive victoire » en majuscule sur son compte Twitter, se félicitant d'avoir ouvert un front sur ce problème en Europe. Car si des dirigeants peuvent ouvertement piétiner le plus élémentaire des devoirs humanitaires, c'est bien parce que l'Europe, c'est-à-dire les États membres européens, ont abandonné l'Italie et la Grèce d'ailleurs, principaux pays d'entrée sur le continent. Plus de 13 000 migrants débarqués dans la péninsule depuis le début de l'année, 700 000 en 5 ans, et malgré les promesses, les autres pays européens n'ont pas ou si peu accueilli ces migrants quand ils ne les refoulent pas en Italie, comme c'est le cas de la France. Quand il s'agissait de bateaux ainsi surchargés de Rohingyas birmans, notamment rejetés par la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande ou encore l'Australie, l'Europe dénonçait. Mais aujourd'hui, la voilà à son tour qui repousse en mer des bateaux de migrants. Matteo Salvini a prévenu que les autres navires d'ONG opérant au large de la Libye seraient confrontés au même refus. L'attitude extrémiste de la Ligue au pouvoir en Italie risque donc de forcer très vite les pays européens à trouver une réponse commune, sauf à accepter de voir se multiplier ces errances dramatique de bateaux surchargés de migrants en détresse, ballottés d'un port à l'autre en Méditerranée.
La première ministre britannique Theresa May face à une nouvelle épreuve aujourd'hui et demain. Le projet de loi sur le Brexit revient devant la Chambre des communes à Londres. Toute une série de votes pour mettre fin à la suprématie du droit européen sur le droit national britannique. Une épreuve pour Theresa May car la Chambre des Lords avait considérablement restreint les marges de manœuvre du gouvernement pour amender les lois après le Brexit. Les précisions à Londres de Marina Daras.
Le projet de loi sur le Brexit fait son retour douloureux devant la Chambre des communes. Le mois dernier, la Chambre des Lords avait réclamé 15 amendements sur ce projet de loi, ce qui avait, en plus d'humilier l'exécutif, imposé un nouveau vote des députés. Theresa May a adressé lundi un message aux rebelles conservateurs qui menacent de ne pas la soutenir lors des prochains votes où elle tentera de modifier ou de faire annuler la plupart de ses amendements. Elle demande aux frondeurs de se ranger derrière le Parti conservateur afin de pouvoir livrer aux Britanniques le Brexit qu'il désire. Mais en plus d'obtenir l'unité des députés conservateurs, Theresa May devra aussi convaincre ses ministres, toujours très divisés sur le Brexit, en particulier sur la question du maintien ou non de l'union douanière pendant la période de transition post-Brexit. Mais même si elle a reçu ces derniers jours le soutien de l'ancienne ministre de l'Intérieur, Amber Rudd, qui défend le projet européen depuis le début, ainsi qu'Ian Duncan-Smith, un eurosceptique notoire, une nouvelle défaite au Parlement pourrait définitivement mettre en péril sa faible majorité. Le vote de cet après-midi qui doit déterminer si le Parlement aura, oui ou non, un vote décisif sur l'accord final sur le Brexit est donc crucial pour le gouvernement de Theresa May et pour la suite des négociations avec Bruxelles.
Marina Daras à Londres pour France Culture.
7h08, vous écoutez les matins de France Culture avec le journal de Catherine Dutu, alors que les syndicats de cheminots entament aujourd'hui leur 15e épisode de grève. En pointillé, 3 TGV et Transilien sur 5 en circulation aujourd'hui, alors que la moitié des TER et 2 intercités sur 5. La réforme de la SNCF poursuit sa route législative.
Députés et sénateurs sont parvenus hier en commission mixte paritaire à une version commune du texte, ce qui ouvre la voie à une adoption définitive de la loi demain par l'Assemblée nationale et jeudi par le Sénat. Si les piliers de la réforme ne bougent pas, avec notamment l'arrêt des recrutements au statut de cheminot, l'ouverture du rail à la concurrence à partir du 1er janvier 2020, la députée En Marche Lauriane Rossi, membre de la commission mixte paritaire sur la réforme ferroviaire, salue l'apport de garanties sociales.
Si nous prenons l'exemple du transfert des salariés du groupe ferroviaire vers les nouveaux opérateurs, ces nouveaux opérateurs qui entreront bientôt sur le marché, ouverture à la concurrence oblige. À l'Assemblée, nous avions déjà apporté des garanties, par exemple l'amendement que je portais qui consistait à interdire à tout opérateur l'entrée sur le réseau s'il ne relève pas de la branche ferroviaire, de la convention collective. Et puis le Sénat a renforcé ce fameux sac à dos social, c'est-à-dire l'ensemble des garanties avec lesquelles les salariés du groupe ferroviaire partiront chez un autre opérateur, à savoir le maintien de la rémunération, le maintien du régime de retraite pour ceux qui étaient au statut. Ces dernières semaines, ces derniers mois, on nous parlait de privatisation. Ce n'est absolument pas le cas. Nous sommes sur des sociétés nationales à capitaux publics incessibles. On nous parlait de fermeture de petites lignes, ça ne figure pas dans le texte. Donc sortons une fois pour toutes des postures et d'un mouvement social qui n'est absolument plus justifié aujourd'hui.
La députée En Marche, Lauriane Rossi, au micro de Stéphane Robert. Pas question en revanche pour les syndicats d'arrêter la grève, y compris pour ceux que l'on appelle les réformistes, tels que la CFDT. Son secrétaire général adjoint, Olivier Boissou, veut désormais négocier une bonne convention collective.
Comme il n'y a plus de statut du cheminot, la convention collective va récupérer tous les salariés qui vont être dans la branche ferroviaire. Et on doit négocier jusqu'au 1er janvier 2020 le plus rapidement possible sur certains secteurs qui sont très importants, notamment la rémunération, la qualification, la formation, enfin tous les secteurs qu'il y a dans une convention collective. Aujourd'hui, on essaye de l'avoir la plus haute possible au niveau social, et ce, pour éviter quelque chose qu'on connaît bien dans la route, par exemple, c'est le fameux dumping social entre entreprises du ferroviaire. Il serait pas possible, avec la sécurité des circulations, qu'on puisse jouer sur le niveau social des salariés. Donc, notre état d'esprit est d'avoir une convention collective de branche le plus haut possible pour les salariés.
Le secrétaire général adjoint de la CFDT, Olivier Boissou, joint par Stanislas Vazac. Le tribunal de commerce de Paris doit rendre sa décision aujourd'hui dans l'affaire qui oppose Vincent Bolloré à France Télévisions. L'homme d'affaires réclame 50 millions d'euros pour atteinte à ses intérêts commerciaux après la diffusion en 2016 d'un reportage dans l'émission Complément d'enquête sur France 2. Et c'est l'une des trois procédures intentées contre la chaîne publique et le reporter Tristan Valex à la suite de cette enquête sur Vincent Bolloré. Antoine Marette.
Trois procédures pour un même reportage. La première pour diffamation. France 2 et Tristan Valex ont été relaxés la semaine dernière par le tribunal correctionnel de Nanterre, qui a estimé que l'enquête du journaliste était sérieuse. Mais Vincent Bolloré a décidé de faire appel. La deuxième est donc cette plainte devant le tribunal de commerce pour atteinte aux intérêts commerciaux. La troisième fait suite à une plainte en diffamation intentée au Cameroun, cette fois par la société de production d'huile de palme mise en cause dans le reportage. Cette société compte parmi ses actionnaires Vincent Bolloré. Ces trois procédures s'ajoutent à une vingtaine d'autres contre des journalistes qui ont eu le tort de s'intéresser de trop près au groupe Bolloré ou à son partenaire commercial Socfin. Sur l'ensemble des poursuites, seules deux ont abouti à une condamnation. La plupart du temps, Vincent Bolloré est débouté quand il ne retire pas sa plainte juste avant le procès. En janvier dernier, des journalistes et plusieurs médias ont publié une tribune déplorant une multiplication des procédures engagées par le groupe industriel à l'encontre de médias, évoquant des poursuites bâillons.